Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les dernières publications de e-Débat. C'est une source intéressante pour comprendre ce qui agite le Maroc. Notre but, extraire un peu les infos clés, les points chauds qui dessinent le pays aujourd'hui, aussi bien en interne qu'à l'international. Et on commence fort avec une secousse dans le monde académique.
Oui, tout à fait. Une affaire de diplôme qui aurait été monnayée à l'université Ibn Zohr d'Agadir. Ça implique un enseignant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vu comme un simple fait divers, non ? Plutôt comme le signe, peut-être, d'un malaise plus général.
Ah oui. Et est-ce qu'on a des indices que ça dépasse juste ce cas à Agadir ?
Absolument. En fait, l'indice d'intégrité de la recherche scientifique 2025, il a un peu tiré la sonnette d'alarme pour 10 universités marocaines, quand même. Ibn Tufayl, à Kenitra, par exemple, se retrouve en liste rouge. Ça veut dire beaucoup de publications retirées.
Carrément, en liste rouge ?
Oui. Et 5 autres, dont Ibn Zohr, justement, mais aussi Hassan II, Mohamed V, Sidi Mohamed Ben Abdellah, elles sont en liste orange, pour erreur ou plagiat. D'autres sont sous surveillance. Donc, c'est vraiment l'image de la recherche marocaine à l'international qui est en jeu là.
D'accord. Et concrètement, quelles conséquences ça a et quelles sont les réactions face à ça ?
Les conséquences, c'est d'abord la perte de confiance des employeurs, par exemple. Et puis, ça rend le pays moins attractif pour les chercheurs, les étudiants étrangers. L'Instance nationale de la probité, l'INEM-PLC, elle est intervenue. Et on entend beaucoup d'appels pour renforcer les contrôles, pour garantir l'autonomie des cellules d'intégrité dans les facs. On parle aussi de formation à l'éthique, de créer un observatoire national indépendant. Mais attention, ce que soulignent les sources, c'est important. Ce sont des actes individuels qui sont visés. Pas les universités en tant que telles. Et beaucoup d'universitaires intègres, eux, souffrent de cette situation.
Oui, on imagine. Ces questions de crédibilité, de direction, ça résonne aussi dans d'autres débats de société, non ?
Effectivement. On a vu, par exemple, une grosse polémique après les propos d'Abdelilah Benkirane. Il a dit, en gros, que le mariage était plus important que l'école pour les filles.
Ah, et ça a fait beaucoup réagir ?
Énormément. e-Débat qualifie ça de « conseil rétrograde » qui maintient les femmes dans la dépendance. Il cite un chiffre choc du ministre de la Justice. 97% des filles mariées mineures arrêtent l'école. La critique est assez féroce, oui. L'éducation, c'est un droit fondamental, pas un obstacle au destin naturel, comme certains pourraient le voir.
Et cette tension sur les valeurs, elle se manifeste aussi dans la façon de parler, dans le langage public.
Oui, il y a une autre analyse dans e-Débat qui s'inquiète un peu de la banalisation de la vulgarité dans le discours politique. L'article fait bien la différence, attention, avec son usage dans le rap. Il cite El Grande Toto, par exemple, comme une forme d'expression sociale plus brute.
D'accord.
Mais quand ce sont des politiques qui utilisent délibérément un langage choc, là, c'est vu comme une faute démocratique. Un peu comme un signe de vide programmatique plutôt qu'une vraie liberté d'expression. Et puis, il y a aussi une critique des micro-influenceurs, ceux qui, parfois sous couvert de proximité, avec des expressions comme « Koutilam Rarba » ou « Mes frères et sœurs marocains », peuvent relayer des idées jugées un peu superficielles, voire biaisées. Ça contribuerait à un certain nivellement par le bas, selon l'analyse.
D'accord. Donc, pendant que le Maroc gère ses tensions internes, sur l'intégrité, les valeurs, comment il essaie de se positionner sur la scène mondiale ? Une scène mondiale qui bouge beaucoup aussi. Il y avait une analyse d'un rapport de l'IRES sur les BRICS+.
Oui, l'Institut Royal des Études Stratégiques. L'analyse d'e-Débat salue la rigueur du rapport, mais elle lui reproche un manque de cap stratégique clair. Le rapport décrit bien les dynamiques, les BRICS+, ce groupe de pays émergents qui s'est élargi, mais il ne dit pas « bon, qu'est-ce qu'on fait ? On adhère, on essaye d'influencer de l'extérieur, on joue un rôle de pont. »
Il manque une doctrine, en fait.
C'est ça, il manque une doctrine. L'article pointe même 5 angles morts. Par exemple, l'absence d'une vision africaine vraiment articulée, ou le fait qu'on n'utilise pas assez le soft power marocain, les étudiants formés ici, la culture.
Donc UV, c'est qu'il faudrait une vision plus affirmée, plus volontariste.
Exactement. L'article suggère une piste, une doctrine basée sur 3 piliers. Souveraineté énergétique, alimentaire, numérique. Projection, c'est-à-dire une diplomatie plus active, des coalitions choisies, peut-être même des outils comme un BRICS+ Policy Lab basé au Maroc. Et puis cohésion, parce que la crédibilité à l'extérieur, elle dépend beaucoup de la solidité sociale et des réformes à l'intérieur du pays.
C'est logique. Et cette volonté de se projeter, ça s'accompagne aussi de changements économiques importants en interne. On parle notamment du dirham.
Tout à fait. le Maroc est entré dans la deuxième phase de libéralisation de son régime de change. Alors concrètement, ça veut dire quoi, hein ? Ça veut dire qu'on abandonne le panier de devises, l'euro et le dollar, comme seule référence. On garde une bande de fluctuation pour le taux de change. Elle est élargie, mais toujours encadrée.
D'accord.
Et surtout, on introduit petit à petit un système de ciblage d'inflation. C'est une approche plus moderne, disons. La banque centrale va se concentrer sur le maintien de l'inflation dans une fourchette cible.
Et pourquoi maintenant ? Et c'est quoi les enjeux, au fond, pour l'économie et peut-être pour les gens ?
Le contexte économique est jugé plutôt favorable, hein. Le dirham est relativement stable, il y a de la croissance, et puis il y a les engagements prêts avec le FMI. Les bénéfices qu'on espère, c'est plus de compétitivité pour les entreprises qui exportent et rendre le Maroc plus attractif pour les investisseurs étrangers.
Mmh. Et le risque ?
Le risque principal, c'est une possible dépréciation du dirham. Si le dirham baisse trop, ça pourrait faire monter les prix des produits importés et donc peser sur le pouvoir d'achat. Mais Banque Al-Maghrib, la banque centrale, insiste beaucoup sur le fait que ce sera un processus très graduel, très maîtrisé. Il parle de 2026 comme horizon possible pour une nouvelle étape.
Bon, on voit se dessiner un tableau assez complexe, finalement. Un Maroc qui fait face à des défis de confiance, d'éthique en interne, qui est traversé par des débats de société assez vifs et en même temps qui cherche à affirmer sa place dans un monde qui change tout en menant une réforme économique quand même assez structurante.
C'est exactement ça. C'est une période de transition multiple et on voit bien comment les enjeux internes et externes sont vraiment très liés. Ils s'influencent les uns les autres.
Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Comment tout ça, toutes ces pressions internes, sociétales et externes, comment est-ce qu'elles vont façonner la trajectoire du Maroc pour les 10 prochaines années ? Et quelle place pour le citoyen au milieu de tout ça ? Voilà pour notre exploration basée sur iDébat. Merci beaucoup de nous avoir suivis.